RFI Midi, toute l'actualité. Florent Guignard.
RFI Midi continue. On va parler de la présidentielle en Tunisie avec la campagne qui s'achève officiellement demain. Le vote, le premier tour, ce sera dimanche. Il y a 26 candidats en lice. Y a-t-il un vrai favori dans ce pays qui est entré en démocratie en 2011, à l'occasion du premier printemps arabe et de la chute du président Zine El Abidine Ben Ali? Bonjour, Pierre Vermeren.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine du Maghreb. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le Maghreb. Cette question, y a-t-il un favori pour cette présidentielle, ou bien est-ce qu'on est cette fois-ci dans une incertitude absolue?
Je dirais qu'il y a peut-être une présomption de favori en la personne de Nabil Karoui, mais vu la situation, puisqu'il est emprisonné...
Voilà, c'est particulier quand même, un candidat qui est en prison.
Semaines, qu'il n'y a pas de sondage et qu'il y a énormément de candidats et beaucoup d'insatisfaction, c'est très difficile de faire un pari. Donc je dirais que pour une fois, pour la première fois peut-être dans le monde arabe, et en tout cas une des premières fois, il y a vraiment une présidentielle qui se déroule avec un grand facteur d'incertitude.
Alors on va s'arrêter précisément sur Nabil Karoui, sur sa personnalité. Et qu'est-ce que ça dit de la Tunisie, le fait que cet homme d'affaires soit en tête dans les sondages?
Je dirais que ça dit deux choses principales. D'une part, qu'il y a la volonté, ou en tout cas une très grande déception des Tunisiens, qui conduit à leur volonté de changer les équipes en place, parce que la démocratie fonctionne à peu près, mais l'économie est vraiment dans une situation assez catastrophique. Et c'est là qu'intervient le facteur numéro 2, c'est-à-dire qu'un homme d'affaires brillant, parti de pas grand-chose, qui s'est fait connaître, qui distribue de l'argent de manière caritative devant ses caméras de télévision, qui est reconnu à l'international comme un chef d'entreprise brillant, un communicant important dans le monde arabe, eh bien ça fait rêver en se disant peut-être que cet homme-là, puisqu'il s'est enrichi lui-même, peut-être qu'il réussira à nous enrichir et à sortir la Tunisie. Il y a du Berlusconi là-dedans, tout le monde y pense, mais certainement lui le premier.
Alors on parle aussi des islamistes d'Ennahda qui avaient profité du printemps arabe, qui avaient remporté les premières élections libres de l'après Ben Ali. Où en est aujourd'hui le vote islamiste?
Alors là aussi, des incertitudes, parce que bien sûr il y a le candidat officiel, enfin c'est la première fois à la présidentielle un candidat du parti Ennahda se présente, Abdel Fattah Mourou, qui est une sorte de grand-père islamiste sympathique, intelligent, plutôt calme, qui risque d'avoir derrière lui une grande partie du vote du parti. Mais il faut dire que le vote du parti s'est effondré depuis 8 ans. Ils n'ont pas du tout convaincu, bien au contraire, ils ont été chassés non pas des affaires de l'État, puisqu'ils co-gouvernent le gouvernement depuis plusieurs années, ce qui d'ailleurs n'est pas très bon pour eux, parce qu'ils sont quand même en partie responsables du bilan. Et puis ce parti est divisé, il y a plusieurs candidats, notamment d'anciens premiers ministres d'Ennahda qui concourent aussi. Donc certainement un effondrement par rapport aux premières élections, mais malgré tout c'est quand même un électorat discipliné, donc il y aura des petits bataillons derrière ce monsieur.
Quels sont les thèmes, Pierre Vermeren, qui ont dominé cette campagne présidentielle qui s'achève?
Alors justement, puisque vous venez de parler des islamistes, c'est l'occasion de dire que les thématiques religieuses ont été mises de côté. Bien sûr, il y a des débats de fond, je dirais, sur l'État, sur l'organisation des pouvoirs. Il y a des questions lourdes aussi qui apparaissent, comme la pénalisation ou la dépénalisation de l'homosexualité, la peine de mort, la question de l'héritage des filles. Tout ça est très important, mais ce qu'il emporte malgré tout, ce sont les sujets économiques et de société, parce que, encore une fois, la grande carence et le grand échec de cette jeune démocratie, c'est d'avoir maintenu une situation économique non seulement stable mais efficace, et ils n'ont ni l'un ni l'autre, puisque le pouvoir d'achat s'est pratiquement effondré de moitié dans le pays, notamment à cause de la dévaluation. Peu importe, on rentre pas dans les circonstances. Il y a toujours un problème très massif d'emploi, un problème très massif de déséquilibre entre les investissements dans le centre du pays et dans les régions périphériques. Et ce sont vraiment les sujets qui marquent. Et d'ailleurs, Nabil Karoui, quand on regarde, d'après les rares études qui ont été faites, où se trouve sa popularité, elle se trouve chez les jeunes, elle se trouve dans la périphérie, dans les zones rurales, dans les régions abandonnées. Et c'est d'ailleurs là aussi qu'il y a une grande partie du vote islamiste, notamment dans le sud. Donc vous voyez que les choses se recoupent.
Et plus globalement, c'est une élection qui passionne les Tunisiens, vous diriez ça ?
Oh, écoutez, ça, je leur laisse le soin de s'exprimer là-dessus. Mais il est évident que la question est très importante. D'ailleurs, vous savez, il y a eu une centaine de candidatures, 26 ont été retenues. Ça part dans tous les sens, il y a une dispersion parce que les islamistes sont dispersés, le parti au pouvoir a éclaté aussi en 6 morceaux, les gauches sont éclatées, il y a des personnalités nouvelles qui apparaissent, qui sont tout à fait tonitruantes. Donc oui, bien sûr, ça intéresse tout le monde. Maintenant, c'est très rapide, c'est très bref. Le décès du président a accéléré les choses, la campagne a duré même pas 2 semaines, elle se termine ce soir, je crois. Et donc... même si ça passionne, on sort à peine de l'été, ça a été très bref, donc il n'y a pas eu le temps pour une vraie campagne. Mais bon, le décès de l'ancien président a rendu les choses un peu plus compliquées que prévu.
Effectivement. Alors la Tunisie a été à l'origine des printemps arabes avec la chute de Ben Ali, on l'a dit. C'était il y a 8 ans déjà. Est-ce que la Tunisie reste le pays arabe le plus exemplaire aujourd'hui en termes de démocratie ?
Oui, ça reste le pays le plus exemplaire, puisqu'il n'y en a qu'un qui a proprement parlé une démocratie. Bien sûr, le Liban, il y a des aspects démocratiques importants, mais on est dans un système communautaire, c'est encore autre chose. Mais cette démocratie tunisienne, elle est effectivement la seule à fonctionner en dehors d'un contexte de guerre civile, sans armée, d'occupation, etc. Donc c'est une expérience très importante pour la région, capitale bien sûr pour les Tunisiens, si vous voulez, c'est une expérimentation. Il faut jamais oublier que la démocratie a mis des décennies, voire un siècle ou plus, à s'installer en Europe. Là, l'expérience a commencé de manière, comme vous disiez, il n'y a même pas 10 ans. Bien sûr, il y a beaucoup d'insatisfaction. Il y a même une candidate de l'ancien parti qui se présente comme la restauratrice du pouvoir de Ben Ali et qui dit que à l'époque de Ben Ali, les gens au moins vivaient en sécurité. Donc ce régime lui-même, comme toutes les démocraties, est contesté de l'intérieur, mais c'est pas pour ça que l'expérience est négligeable, bien au contraire.
Merci beaucoup pour votre analyse, Pierre Vermeren. Vous enseignez l'histoire du Maghreb contemporain à l'université Paris Panthéon Sorbonne.